Quand avec l'équipe de Galère sa mère, on a décidé de faire un podcast sur l'endométriose, au départ je me suis dit « Ok, j'en entends beaucoup parler, mais en fait, c'est quoi exactement ?» Ces derniers temps, l'endométriose est devenue un sujet incontournable dans la sphère gynécologique des femmes. J'ai 43 ans et personnellement, jeune, je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, cette maladie ne vient pas de faire son apparition. Je me suis alors posé la question, pourquoi parle-t-on autant de l'endométriose aujourd'hui ? Parce que la science évolue et que les chercheurs, les médecins peuvent maintenant mettre un mot, expliquer ce que vivent ces femmes ? Sûrement. Peut-être aussi parce qu'enfin, on commence à se dire qu'il n'est pas normal qu'une femme souffre pendant ses règles et que la douleur n'était pas vraiment prise en compte il y a encore peu de temps. Ça me fait penser à mon adolescence, je ne souffrais pas de cette maladie, mais pour autant, je vivais chaque mois un véritable calvaire le premier jour de mes règles. Un jour, pliée en deux, je me souviens d'avoir demandé à mon père d'aller m'acheter des serviettes périodiques. Mon papa, pourtant très compréhensif et à l'écoute, m'avait répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais si mal parce qu'à la télé, les pubs vantant les serviettes et les tampons nous montraient des filles hyper joyeuses qui couraient, sautaient et faisaient des roues dans la nature. Cette phrase, qui me fait encore rire aujourd'hui, est restée gravée dans ma mémoire. Et oui, on n'a pas beaucoup évoqué depuis la nuit des temps les douleurs que ressentent les femmes. Alors maintenant que la parole se libère enfin, on est en droit de dire qu'on a mal et que cette maladie, qu'est l'endométriose encore inconnue du grand public il y a 5 ans, peut se faire connaître.
Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 29 ans, j'ai un petit garçon de 17 mois. J'ai reçu un diagnostic d'endométriose en 2014. En fait, il s'avère que j'en avais sans doute depuis mes premières règles à mes 15 ans, où les douleurs étaient très intenses. Ensuite, la pilule a masqué la maladie pendant des années. Jusqu'à ce que je décide d'opter pour un stérilet au cuivre, ce qui n'est pas du tout recommandé en cas d'endométriose. Ça m'a créé des nouvelles lésions du fait de l'inflammation, des règles très abondantes. Du coup, j'ai reconsulté, vu les douleurs, en craignant une endométriose suite à mes recherches sur le net. J'ai vu plusieurs radiologues et gynécologues, jusqu'au verdict d'un radiologue spécialisé. Pour beaucoup de femmes atteintes, l'annonce de la maladie, c'est un soulagement, en mode « je suis pas folle, c'est pas dans ma tête ». Dans mon cas, ça a plutôt été un coup de massue parce que je redoutais d'avoir cette maladie et que j'avais une peur bleue de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors, s'en suivent 4 ans de pilules macro-progestatives avec prise de poids, libido au point mort, sécheresse vaginale, etc. Mais une vie presque normale en dehors de ça, avec une alimentation adaptée pour lutter contre l'inflammation, la prise de poids. À 26 ans, j'arrête ma pilule pour tomber enceinte. Et après un an et demi de galère, une fausse couche, l'arrivée de vives douleurs, notamment lors de l'ovulation et durant les rapports, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon. La grossesse a plutôt été une période de répit, pour ma part, mais l'endo est toujours là, tapis dans l'ombre de traitements hormonaux plus ou moins efficaces. Et je sais que j'en ai pas fini avec elle. J'ai trouvé pas mal de réconfort sur des groupes Facebook dédiés à la maladie. On s'entraide, on se conseille entre endo-girl ou endo-warrior, comme on s'appelle. Parce que c'est une maladie très complexe, qu'il faut se diriger vers les bons médecins et qu'on est souvent un peu démunis face aux symptômes assez invalidants. Alors heureusement, les tabous autour des règles tombent progressivement, mais la recherche médicale elle prend du temps et en attendant, on attend toujours des traitements plus efficaces et moins contraignants, avec l'espoir que nos filles n'aient pas à souffrir autant que nous dans quelques années.
Alors c'est quoi exactement l'endométriose ? Quelle en est l'origine ? Qui est touché ? Comment savoir si l'on souffre de cette maladie ? Et surtout, comment cela se soigne ? Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Sofiane Bendifala, qui est chirurgien gynécologue, enseignant et chercheur, expert en endométriose au sein du service de gynécologie et médecine de la reproduction de l'hôpital Tenon. Il va pouvoir nous éclairer sur le sujet et répondre à nos questions. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère, un épisode qui lève le voile sur l'endométriose. Bonjour docteur.
Bonjour madame Saada.
Merci d'être parmi nous pour répondre à ces questions qui, je pense, vont intéresser beaucoup de nos auditrices. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, simplement, ce qu'est l'endométriose ?
Oui, alors... Ce qu'on peut dire assez simplement, peut-être donner la définition, celle qui est la plus consensuelle actuellement, est de dire que l'endométriose, finalement, elle est définie par la présence d'un tissu, d'un tissu qu'on appelle endométriotique-like, c'est-à-dire qui ressemble au tissu endométrial contenu dans l'utérus. C'est un tissu qui est composé à la fois de glandes et de stroma et qui se déposerait en dehors de la cavité utérine, avec tout un ensemble de localisations qui vont à la fois définir l'extension de la maladie et puis... force est de constater les symptômes qui s'y rapportent.
Et pourquoi est-ce qu'on, je le disais dans mon introduction, on n'en parle que depuis peu de temps finalement, cette maladie, elle ne vient pas juste de faire son apparition?
Ah non, clairement. La première définition, elle date de près de plus de 160 ans, donc on est sur une description qui est assez ancienne. On pourrait même remonter à l'Antiquité, et notamment des descriptions de cycles douloureux. Mais la principale difficulté liée à cette pathologie, c'est que pendant de très très nombreuses années, à la fois les symptômes, mais aussi les conséquences de ces symptômes, tant dans la sphère génitale, familiale, professionnelle, ont été tabous, si bien que de nombreuses femmes ces dernières années, et notamment à travers le rôle des associations, ont permis à la fois de libérer la parole, ce qui est une bonne chose, d'en parler, et puis maintenant de favoriser un dialogue constructif, en tout cas j'espère constructif, tout autour de la maladie pour essayer d'améliorer la prise en charge.
Et il y a différentes causes alors à cette maladie, là vous nous expliquez donc dans l'introduction, mais est-ce qu'il y a différentes causes finalement ?
Alors, les causes, elles ne sont pas très bien connues. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est de dire que pour l'endométriose, on est vraiment, entre guillemets, un terme que j'utilise souvent, on est à la préhistoire de nos connaissances.
Ah.
Il est vrai qu'il y a des études, on a des connaissances sur le sujet, mais on a surtout des théories. Alors, pour revenir aux théories sur l'explication, donc les mécanismes physiopathologiques, les mécanismes qui sont à l'origine de la maladie, je pourrais vous en citer au moins une dizaine.
Mm-hmm.
Alors, on part à faire un catalogue assez exhaustif qui n'aurait pas tellement de sens. Je vais peut-être me concentrer sur 3-4 causes,
oui.
Et puis voir un petit peu comment est-ce qu'on peut évoquer ces différents sujets. La théorie la plus simple, celle qui est la plus compréhensible, c'est de dire qu'à chaque cycle, vous avez du tissu endométrial qui va refluer à travers les trompes et venir s'implanter dans la cavité péritonéale.
Mm-hmm.
Et tout au long de ce trajet, à travers les trompes, et puis après les trompes au niveau des ovaires, puis dans le cul-de-sac de Douglas, qui est ce qu'on appelle la zone pelvienne la plus profonde, les cellules endométriales vont venir s'implanter. Et à ce niveau-là, vous avez généralement, chez la grande majorité des femmes, des mécanismes de protection qui sont à la fois immunitaires, des mécanismes de protection qui ont pour vocation de détruire toutes les cellules qui n'ont rien à y faire dans la cavité péritonéale. Et finalement, vous avez, pour certaines d'entre elles, de l'implantation. Et ce tissu va s'implanter. Et au gré d'un certain nombre de mécanismes liés peut-être parfois aux toxiques, à l'environnement, à l'effet hormonal, vous avez le développement et l'infiltration des tissus par ces cellules.
Mm-hmm.
Si bien qu'on distingue différentes formes d'endométriose selon le degré d'infiltration de ces tissus.
Combien de femmes sont touchées aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres ?
Alors, pour être finalement très précis, on a une fourchette. On dit que finalement, c'est presque 2 à 4 millions de femmes qui seraient concernées par l'endométriose. Alors, vous voyez que c'est une fourchette qui est très vaste,
bah oui.
Finalement.
Mais vous parliez de différentes formes, différents types. C'est parce qu'il y a donc différents types d'endométriose, en fait. C'est pour ça aussi.
Exactement. Alors, artificiellement, on distingue, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent, ces formes coexistent. Hein. Alors, la forme la plus connue, c'est la présence d'un kyste d'endométriose. C'est le plus souvent ce qui va révéler chez une patiente l'endométriose, occultant les symptômes, bien sûr. Donc, vous avez un kyste au niveau de l'ovaire, et ce kyste au niveau de l'ovaire va parfois prendre quelques centimètres de volume, et puis un petit peu plus, vont presque atteindre des dizaines de centimètres.
Ah oui.
La deuxième forme d'endométriose, c'est les cellules qui se sont accrochées au tissu, qui tapissent les organes dans la cavité abdominale, qu'on appelle le péritoine. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'endométriose dite péritonéale ou superficielle.
Okay.
Et enfin, chez un nombre de patientes, vous avez ce tissu qui est pénétré dans sa profondeur. Donc, généralement, on dit qu'une infiltration du péritoine de plus de 5 mm de ces structures anatomiques que je vous ai citées constitue l'endométriose profonde avec un certain nombre de localisations qui peuvent être très variables selon les zones dans la cavité abdominale, pouvant aller de l'atteinte de ce qu'on appelle le ligament utérosacré et le torus uterinum, qui sont les zones rétro-cervicales et rétro-utérines, jusqu'à des atteintes digestives de plusieurs centimètres qui peuvent être uniques ou multiples dans la cavité abdominale. Et parfois, ce n'est pas si rare que ça, vous avez d'autres formes de localisation, notamment au niveau des coupoles diaphragmatiques, qui renvoient ces jeunes femmes à une symptomatologie très typique, qui est celle d'avoir des douleurs irradiant vers l'épaule, irradiant dans l'hypochondre droit, c'est-à-dire juste sous le foie, près des côtes. Et ces douleurs-là sont rythmées par le cycle. Elles sont à recrudescence dite cataméniale.
Oui, donc ça peut aller vraiment du bas du ventre jusqu'en haut, quoi.
Oui, on considère que c'est une pathologie de l'ensemble de la cavité abdominale, avec un certain nombre d'organes initialement qui peuvent être touchés. Alors, vous avez les organes génitaux. Parmi les principaux, comme je vais plus vous le citer en ordre de fréquence, les ovaires. Vous pouvez avoir des atteintes au niveau des trompes, avec des destructions des trompes. Ils vont aller à des collections de liquides au niveau des trompes et entraîner des infections. Vous pouvez avoir des atteintes du vagin de certaines patientes. En regard de l'utérus, vous pouvez avoir des atteintes de la vessie en avant, des atteintes du rectum en arrière. Et puis, il y a toute une forme d'endométriose qu'on appelle des formes très sévères, où vous avez ce qu'on appelle des atteintes latérales. Donc, vous voyez que c'est l'ensemble du petit bassin féminin qui peut être concerné. Et ces formes dites latérales peuvent aller dans les formes les plus extrêmes jusqu'à concerner ce qu'on appelle l'urtère. L'urtère, vous savez, c'est le tuyau qui va du rein à la vessie. Oui. Et certaines patientes peuvent avoir des compressions dites extrinsèques. L'urtère peut être touchée. Elles vont donc manifester des infections urinaires à répétition et parfois même des pyélonéphrites et parfois même des destructions du rein. Oui. Donc, vous voyez qu'on est là dans des formes vraiment très agressives de la maladie, mettant en jeu le pronostic d'un organe.
Quels sont les signes d'alerte pour une patiente? Quand est-ce qu'on doit s'alarmer? Quand est-ce qu'on doit consulter? Et vous parliez de lésions. Est-ce qu'il faut voir d'office un radiologue hyper spécialisé pour repérer ces lésions?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Votre question, elle répond tout d'abord à l'écoute des malades, l'écoute des patientes, parce que ça, c'est assez fondamental. Et lorsqu'on les écoute, ces patientes, elles vous disent quasiment toutes. Alors, vous pouvez avoir des formes plus atypiques, mais quand vous les interrogez sur la survenue des premières règles, elles vous disent bien entre 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et quand vous les interrogez sur « aviez-vous déjà mal à l'époque ?», sans parler d'intensité, simplement « aviez-vous des règles douloureuses ?». Et un certain nombre d'entre elles vous rapportent « oui, c'est vrai que mes règles étaient douloureuses. Parfois, j'étais amené à manquer l'école. Parfois, mes parents venaient me chercher. Parfois, je faisais des passages à l'infirmerie. » Et puis, ces histoires, généralement, se soldent par l'introduction très rapidement d'une pilule. Et finalement, vous voyez bien que les premiers symptômes commencent dès l'adolescence, en réalité. Donc, dès l'adolescence, il faut être à l'écoute des jeunes filles, notamment quand à l'expression de façon récidivante de ces symptômes douloureux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quels sont les symptômes qui peuvent éventuellement alerter. Alors là, ce qui fait une des particularités de l'endométriose et finalement ce qui a fait que pendant très très longtemps, elle a été pas méconnue, mais on va dire mise un petit peu au banc des maladies, c'est que vous avez un certain nombre de symptômes qui sont dits aspécifiques, pouvant aller de symptômes gynécologiques avec des règles douloureuses jusqu'à parfois des symptômes digestifs, comme par exemple des troubles du transit avec des diarrhées et des constipations, ces diarrhées et constipations pouvant finalement alterner selon la période des cycles ou non. Vous avez des patientes qui vous disent très très souvent que leur ventre gonfle et donc elles voient très rapidement, au fur et à mesure des années, se sentir un peu ballonnées. Parfois, certaines d'entre elles, selon les localisations, peuvent déclarer des douleurs à la défécation, voire même des rectorragies, donc du sang provenant de l'intérieur du rectum. Donc, vous voyez bien que ces symptômes qui s'additionnent aux douleurs gynécologiques, donc ce qu'on appelle les dysménorrhées, qui peuvent être d'une intensité variable, mais qui sont généralement à recrudescence à chaque cycle. Et associé à ça, vous pouvez aussi avoir des signes urinaires. Il n'est pas rare d'avoir des patientes qui, pendant leur cycle, voient par exemple la nécessité de pousser, avoir un jet un petit peu plus ralenti, attendre le jet, ou peut-être parfois devoir y aller beaucoup plus souvent. Donc, vous voyez que quand vous associez l'ensemble de ces signes, ça fait beaucoup de modes d'entrée dans la maladie. Et donc, ces signes-là doivent alerter les patientes et du coup, conduire très souvent à pouvoir explorer.
C'est quand même très, très large parce que vous parlez de beaucoup de signes. De nombreuses femmes déclarent que leur maladie n'a été décelée qu'au bout de nombreuses années. Alors, pourquoi? Et est-ce qu'il est possible de passer à côté parce qu'on se dit que finalement, c'est normal de souffrir?
Oui, alors ça renvoie à un élément qui est fondamental, c'est que le diagnostic de l'endométriose, c'est un véritable challenge.
Ah oui.
C'est un des diagnostics les plus complexes en médecine pour plusieurs raisons. Et ça a été rappelé très récemment dans une des publications qui fait le plus consensus sur le sujet, c'est que vous avez à la fois des symptômes qui sont peu ou pas spécifiques, qu'on a déjà rappelé. Vous avez dans ce contexte-là très peu de marqueurs ou en tout cas d'éléments biologiques pouvant nous permettre de distinguer les patientes qui ont l'endométriose de celles qui n'en ont pas. Vous avez par ailleurs tout le contexte social dont on a évoqué, mais qui tend à évoluer, est une bonne chose. Et finalement, l'ensemble de ces éléments-là conduisent à des délais diagnostiques qui peuvent parfois varier de presque de 7 à 11 ans selon les pays.
Ah ouais.
Donc, imaginez bien que l'impression qu'on a, c'est que bien souvent, vous avez des patientes qui, dès l'adolescence, ont des symptômes. À ce moment-là, se voient proposer l'introduction d'une contraception hormonale. Et puis, chemin faisant, aux alentours de 25 ans, 26 ans, l'âge au moment où elles souhaitent parfois concevoir, c'est là qu'à l'arrêt de la pilule, vous voyez apparaître l'exacerbation des symptômes. Et donc, ces symptômes sont assez troublants pour elles parce que, bien qu'elles aient eu des règles douloureuses, parfois un peu atténuées par cette contraception, elles sont très perturbées puisque vous comprenez bien que ces symptômes sont nouveaux et parfois peut-être atténués par cette contraception, sont parfois assez déstabilisants, tant au niveau de la gestion du cycle, mais aussi en termes de projection sur ce qu'on pourrait appeler le projet de conception et notamment la gestion du projet de conception avec des règles douloureuses.
Mais la pilule contraceptive fait partie des traitements ?
Alors, il se trouve que les traitements peuvent aller de simplement un accompagnement des patientes avec des explications jusqu'à l'introduction de pilules hormonales contraceptives de type œstrogène et progestérone et parfois de progestérone. Vous avez plein d'alternatives qui ont été décrites depuis de nombreuses années. Vous avez des recommandations de 2017 qui datent un peu, mais qui font une espèce de hiérarchisation dans l'indication de ces hormones. Oui, les pilules font partie du traitement, mais font partie du traitement symptomatique de l'endométriose.
Oui, oui.
Aucune de ces pilules, il faut bien insister là-dessus, ne permet la régression de la maladie ou la modification de l'évolution de la maladie. Si tant est qu'on puisse parler d'évolution de la maladie, là on rentre sur un sujet qui est parfois pas très consensuel entre les médecins et les chercheurs.
Et la chirurgie, ça existe ?
Alors la chirurgie, ça existe. Elle est, avec l'endométriose, parfois décriée. Et si on s'en tient aux indications strictes de la chirurgie, il reste trois indications. La première, c'est lorsque vous avez des situations qui sont très extensives de la maladie. Je m'explique. Vous avez, par exemple, une endométriose qui comprime le rein.
Oui.
Vous avez donc une indication formelle de l'endométriose. Vous avez des patientes avec des kystes ovariens très volumineux, d'une dizaine de centimètres. Ça pose la question de la gestion de ce kyste qui est généralement associé à des douleurs. Et le troisième élément, c'est lorsque vous avez des formes d'endométriose qui se développent aux dépens de l'intestin, au point d'entraîner ce qu'on appelle des syndromes suboclusifs, voire même occlusif. Vous voyez bien que sur ces formes très extrêmes de la maladie, l'indication chirurgicale est quasi formelle. Le deuxième élément, c'est qu'on considère actuellement que le traitement chirurgical doit être réservé exclusivement aux patientes pour lesquelles vous auriez entrepris tous les traitements, ou en tout cas vous auriez essayé tous les traitements et que vous êtes en échec des traitements usuels.
Dernier recours, quoi.
Exactement. Et enfin, le dernier élément, notamment pour la prise en charge de la fertilité et l'optimisation des chances de conception, nous avons des résultats qui sont maintenant assez consensuels sur le sujet pour dire que dans certaines situations, j'insiste bien, dans certaines situations sur lesquelles on pourrait revenir éventuellement un petit peu plus tard, vous avez la possibilité d'envisager un traitement chirurgical en vue d'optimiser les chances de grossesse, à la fois naturelles, mais aussi en aide médicale à la procréation.
Parce qu'on entend beaucoup de choses hein, sur cette maladie, et on entend parfois que c'est synonyme d'infertilité, c'est vrai ou pas ? Ou est-ce qu'on parle aussi d'un risque de fausse couche plus importante ? Est-ce que tout ça, ce sont des idées reçues ? Est-ce que c'est vrai ?
Non, tout ça est totalement rapporté. On est sur des données qui sont... Je vous disais au départ, on était à la préhistoire de la connaissance sur cette maladie, mais au moins, on sait une chose, c'est que bien souvent, un des modes d'entrée dans la maladie, c'est l'infertilité, puisqu'on considère que finalement, la prévalence de l'endométriose est de l'ordre de 20 à 30% chez les patientes infertiles. Et vous avez dans certains endroits qui sont dits des centres de référence, parfois presque 50% des patientes et des couples pris en charge qui sont liés à l'endométriose, ce qui est faramineux comme chiffre.
Et les fausses couches également, plus important ?
Alors oui, parce qu'on sait bien que dans les différentes formes de l'endométriose que je vous ai citées au départ, alors j'avais peut-être omis, mais pas complètement, de parler de ce qu'on appelle l'adénomyose. Alors vous savez que l'adénomyose, c'est une entité qui a une description, ou en tout cas une définition qui est de l'ordre histologique, mais qu'en imagerie, on peut notamment se rendre compte de la présence de ce qu'on appelle de lacunes dans le muscle de l'utérus et parfois dans les différentes composantes de l'utérus qui vont venir détruire l'architecture même de l'utérus et qui vont augmenter le risque de ce qu'on appelle de fausse couche prématurée du premier trimestre.
Mais à contrario, est-ce qu'on entend aussi, parce qu'on entend tout et son contraire, la grossesse, est-ce qu'elle peut endiguer la progression de la maladie et on entend aussi que la maladie pourrait revenir plus forte après.
Alors, effectivement, il y a un point fondamental, c'est que vous avez vu que dans les thérapeutiques que l'on a citées au départ, l'obtention d'une grossesse est une forme de thérapeutique intermédiaire, puisque ce qu'on constate, et ça c'est relativement bien rapporté, c'est que l'ensemble du cortège de symptômes que les patientes peuvent exprimer est radicalement et significativement atténué, diminué pendant la grossesse. Et donc, vous avez une forme de période qui comprend la grossesse, parfois le postpartum, avec un allaitement ou non, où vous avez un certain nombre de patientes qui ont des symptômes qui sont largement réduits. Le corollaire de cette période, c'est que très souvent, dès la réapparition des premiers cycles, vous avez parfois une exacerbation des symptômes avec un ressenti qui est très variable selon les patients. Donc, vous avez des patientes qui vous disent que c'est bien pire maintenant qu'avant l'obtention de la grossesse et certaines qui vous disent que finalement, le ressenti existe, mais que le ressenti est moins intense.
Donc, ça doit être sacrément compliqué de travailler sur cette maladie parce qu'en fait, vous avez un spectre qui est géantissime.
C'est hyper compliqué. L'élément fondamental pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute des patientes ou en tout cas d'essayer de l'être au maximum parce que ce n'est pas toujours si simple que ça puisque vous avez imaginez bien une maladie qui est en soi très complexe, avec des informations médicales qui ne sont pas toujours prouvées. Mmh. Et les patientes attendent de nous, médecins, d'être capables de leur donner des certitudes, ou en tout cas des orientations et des conseils qui sont basés sur des certitudes que l'on n'a pas souvent en réalité. Donc, toute la discussion est là, c'est d'être capable de nuancer qu'on peut leur proposer au regard de ce qu'elles ressentent dans un contexte qui est le leur de vie ou de profession.
Oui, parce que j'imagine que vous parlez donc beaucoup à ces femmes qui souffrent de cette maladie et que le suivi gynécologique est essentiel, mais il y a d'autres soutiens pour ces femmes, des associations. J'ai entendu parler de Endo France, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes, elles se font appeler les Endo Girls. Elles peuvent se faire aider comment, ces femmes, autrement?
Alors, il y a un point qui est important. Et peut-être je vais recontextualiser votre question, si vous me permettez.
Bien sûr.
Au départ, on avait parlé du challenge du diagnostic. Donc ça, c'est un premier challenge. Mais il y a aussi un deuxième élément dont on doit tenir compte, c'est celui de la prise en charge des patients diagnostiqués. Mmh. Et là, on n'est même pas à la préhistoire de la prise en charge de l'endométriose. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du... on est très loin d'être finalement qualitatif et quantitatif au sens de notre capacité à accompagner les patients. Ah. Donc pour répondre à votre question... Depuis de très nombreuses années, devant cette incapacité que l'on a collectivement, hein, à la fois notre système de soins, à la fois l'ensemble des méthodes que l'on a pour les accompagner, font que les patientes se sont tournées vers les associations et à juste titre, vous avez un certain nombre d'entre elles, vous avez cité Endo France, vous pouvez citer Endomind, vous avez d'autres groupes de parole qui participent activement à l'accompagnement de ces patientes en les conseillant. Vous avez par ailleurs un certain nombre de professionnels, enfin de patientes qui sont devenues dites des professionnelles expertes, des patientes dites expertes, qui se sont du coup formées à l'accompagnement de ces patientes et formalisent d'ores et déjà des ateliers pédagogiques qui visent à améliorer à la fois l'information des patientes et donc du coup, en considérant ces éléments d'information, en améliorant l'accompagnement. Parce que informer, c'est faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie permet finalement d'être un petit peu plus alerté quant à sa maladie sur les différentes options qui s'offrent à nous.
Au sein des hôpitaux, on peut trouver aussi ces personnes ?
Alors, il y a des équipes pionnières sur le sujet, oui. Ces ateliers d'accompagnement par des patientes expertes existent au sein des hôpitaux. Alors, je ne peux pas vous dire que ça existe dans tous les hôpitaux pour toutes les patientes, mais on est vraiment sur quelque chose qui commence à se développer et qui doit prendre une place particulière dans le parcours de soins des patientes.
Vous êtes optimiste, vous, quant à l'avenir ?
Oui, évidemment que je suis optimiste parce que je suis au tout début de ma carrière. Donc, évidemment que quand on part de la préhistoire, on a finalement tout à innover. Donc, bien sûr que l'on va progresser. On va progresser collectivement, notamment. Vous savez qu'il existe depuis à peu près 2-3 mois une politique. En tout cas, le président de la République a voulu mettre en place véritablement un équivalent de plan pour la lutte contre l'endométriose. Et donc, du coup, un certain nombre d'experts ont planché sur comment améliorer à la fois le diagnostic, la recherche, l'accompagnement des malades, le parcours de soins. Donc, on va vers une amélioration a priori de ce parcours. Par ailleurs, vous avez notamment des associations, la fondation qui vient d'être créée, la fondation de lutte et d'aide à la recherche contre l'endométriose. Donc, vous voyez bien qu'un certain nombre d'initiatives sont en train de se construire sur l'ensemble du territoire. Et donc, je suis vraiment hyper optimiste de ce point de vue.
Et est-ce que dans tout ce qui se met en place, est-ce qu'il existe aussi des médecines complémentaires qui peuvent agir sur les symptômes et aider les femmes ?
Et ça, c'est génial. C'est une question topissime. Pour la simple et bonne raison que, dans mon expérience et puis dans les quelques travaux qu'on a publiés sur le sujet, je peux par exemple vous citer l'impact très significatif et positif de l'ostéopathie. Mmh. Nous sommes sur des méthodes alternatives, non médicales, qui peuvent apporter une forme de bien-être aux patientes. Et il n'est pas rare, et donc généralement dans les consultations que nous avons, nous le proposons systématiquement, en tout cas moi je suis amené à le proposer systématiquement, au même titre que n'importe quelle contraception que je pourrais proposer, et ça fait partie pour moi de la prise en charge initiale d'une endométriose. Alors parfois c'est perçu par les patientes comme étant finalement quelque chose de peu ou pas efficace, mais mon impression subjective et mon impression objective, puisque nous avions réalisé des travaux sur le sujet, c'est que vous aviez un vrai bénéfice, à la fois sur l'atténuation des symptômes, mais aussi et surtout sur l'amélioration de la qualité de vie des patientes. Donc, c'est vraiment, par exemple, une forme que l'on peut proposer. Vous avez des patientes qui font appel à des naturopathes. Vous avez des patientes qui font notamment appel à des diététiciens pour envisager des régimes alimentaires anti-inflammatoires. Mmh. Et toutes ces choses associées aux médicaments fonctionnent, peuvent participer, finalement, non pas à enlever toute endométriose, on ne peut pas dire ça aux patientes, mais en tout cas à atténuer cette intensité de douleur pour essayer au minimum d'avoir une vie personnelle et professionnel acceptable.
Écoutez, je vous remercie.
C'est moi.
Merci au docteur Bendy Fala. J'ai un peu l'impression qu'on a eu notre cours sur l'endométriose. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas plus informé. Mais son optimisme me rend optimiste. N'hésitez pas à vous diriger vers les vrais centres experts et les associations de patientes, Endo France, Endomind, on en a parlé, pour aller voir des spécialistes. Et retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur l'endométriose. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf, à l'heure où les enfants sont au judo, à la danse ou au solfège. Dans le prochain, on parlera CNV. Vous savez, la communication non violente. Et si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. À très vite pour le prochain épisode de Quelle ère sa mère.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.